Nous lisons dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens l'ayant appris dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Voilà ce que le Seigneur dit. C'est ça notre verset principal, le verset 29. « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. » Notre thème, c'est discerner et vaincre les hommes forts. Vous savez, beaucoup de gens ont l'impression en eux-mêmes, certains, que après 10 ans, 15 ans de conversion, ils ne sont pas toujours vraiment chrétiens. Il y en a qui sont honnêtes pour le reconnaître eux-mêmes. Mais pour d'autres, c'est les gens extérieurs qui constatent ça. Vous voyez, quelqu'un, pendant 6 mois, marchait comme il faut. Après 6 mois, ça retombe. 2 ans, il marche comme il faut. Après 1 année encore de chute, rétrogradation. Et il y en a qui, dans leur langage, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment donné leur vie alors que à Jésus, alors qu'on les a vus confesser Jésus, on les a vus être baptisés, on les a vus marcher avec le Seigneur. Et quand ils parlent, d'un côté, on sent qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent de lui. Mais de l'autre côté, dans leur agissement, dans leur réaction, on se rend compte qu'ils sont loin de Dieu ou bien ils ne marchent pas vraiment à 100% avec le Seigneur. Et nous sommes parfois étonnés des nouvelles qu'on entend. Mais tel pasteur est retombé dans telle chose, tel évangéliste est retombé dans telle autre chose. Et parfois on se pose la question, il y a plusieurs réponses. Bien sûr, il y a la conversion, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Et souvent on a dit la conversion, mais les gens ont dit, mais nous l'avons vu se convertir, nous l'avons vu changer. Parfois on dit, nous l'avons vu changer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je veux parler des hommes forts. Dans Matthieu 6, le Seigneur dit une chose, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu trahiras, ou tu aimeras l'un, tu haïras l'autre, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où tu préféreras un. Mais quand parmi ces deux maîtres figure le Seigneur, viendra un temps où lui-même le Seigneur lâchera, parce que le Seigneur ne travaille pas dans la cohabitation. Nos gouvernements aujourd'hui peuvent travailler dans la cohabitation, mais nous voyons déjà ce qui arrive, particulièrement aux États-Unis. Juste pour une décision de relèvement des dettes, le pays est en crise énorme et qui veut plonger le monde entier dans la crise. Or, du temps de Reagan avait fait ça 17 fois. Donc ce qui crée des problèmes aujourd'hui, Reagan, lui, l'avait fait ça 17 fois, mais ça n'avait fait aucun problème. Mais c'est pour vous montrer que la cohabitation est toujours quelque chose de compliqué. Donc il y a d'un côté un parlement qui est contrôlé par l'opposition, de l'autre côté un président, et ça fait toujours des problèmes. Et Dieu ne supporte pas la cohabitation avec quelqu'un d'autre. Quand il y a cohabitation, il finit Dieu lui par quitter, par laisser, parce que lui, il ne peut pas se mélanger avec quelqu'un. Il veut que notre choix soit total. Et on pourrait parler aussi, pour ce cas que nous allons traiter aujourd'hui, de mort à soi-même. Mais moi, je vais insister sur le côté homme fort, sur le côté où l'homme doit réaliser qu'il a un géant dans sa vie qui est en train de bloquer l'action de Dieu dans sa vie. Même si d'un côté, il a sympathisé avec le Seigneur, il a aimé le Seigneur, mais il doit discerner. Et comment on discerne, comme je vous l'ai dit, dès qu'on commence à avoir l'impression que ça ne va pas dans notre vie, qu'on traîne, qu'on tourne en rond, dans le Seigneur, posons-nous la question, est-ce qu'il n'y a pas un homme fort qui est en train de trôner dans ta vie et qui est un rival pour le Seigneur, qui fait que le Seigneur se dégage et te laisse avec cet homme fort. Et nous allons prendre quelques exemples concrets dans la parole et pour nous aider à comprendre. Nous commençons par Luc 18. Luc 18. Il est écrit ceci au verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Cet homme avait de très bonnes dispositions. D'ailleurs, dans un autre évangile, Jésus dit, il est écrit, Jésus l'aima. Quand tu entends quelqu'un te dire, je veux connaître les moyens par lesquels je peux aller au ciel. Ça fait déjà du bien de voir que quelqu'un s'intéresse au ciel. Donc, il est écrit que Jésus l'aima. Cet homme a dit à Jésus, je pratique tout ce que tu as dit là. Aime ton père, honore ton père, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol. Je pratique ça depuis ma jeunesse. Donc, il était dans de bonnes dispositions. Cet homme, à notre époque, nous le considérerions déjà comme étant quelqu'un, un serviteur de Dieu, puisqu'il pratique tous les commandements. Jésus lui dit, « Vends tous tes biens et suis-moi. » C'est là que nous voyons, bien-aimés, qu'il y a une différence entre pratiquer en apparence tous les commandements du genre, les commandements moraux, c'est-à-dire il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas injurier. Quelqu'un peut en apparence pratiquer tout ça. Mais en réalité, il omet un commandement et le plus important, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cet homme a, quand Jésus lui a parlé, il a pensé à tous les commandements moraux. Donc tout ce qui concerne l'ordre sur la terre, que les policiers même sont chargés de faire respecter. Donc certains se mesurent à partir de ces commandements-là. Je paye les impôts, je ne vole personne, je ne vole pas au travail, je n'injurie personne, je ne tue personne. Mais parfois, c'est quelqu'un de très égoïste qui garde tous ses biens pour lui-même, n'aide pas ses parents, n'aide peut-être pas des amis, n'aide pas les frères et sœurs, que ce soit de la famille ou que ce soit de l'église. Mais cette personne, si elle s'examine, elle risque de dire, mais moi je suis correct, puisque je ne vole pas, je ne tape pas, je ne mens pas, je n'injurie pas, je ne fais pas ceci, cela. Et à partir de ce moment-là, bien-aimé, on s'égare parce qu'on est dans la religion. Et cet homme croyait être quelqu'un de bon jusqu'au moment où Jésus lui a dit, alors dans ce cas, il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Donc, qu'a été le problème de cet homme? C'est qu'il était incapable de se séparer de ses biens. Donc, ses biens étaient devenus l'homme fort de sa vie. Vous savez, sur la terre, il y a une guerre entre Dieu et Satan. Satan, bien sûr, avec ses anges, il a des anges très puissants aussi. Et la guerre, c'est de gagner le cœur de l'homme. C'est de gérer l'homme. C'est d'être le Dieu de l'humain, de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus dit, ben, moi, pour vous délivrer, pour vous sauver, j'ai d'abord lié l'homme fort. J'ai pris Satan, je l'ai lié. Maintenant, je peux chasser les démons. Maintenant, je peux délivrer les humains, je peux les sauver parce que Satan lui-même, je l'ai lié d'abord. Et Dieu veut conquérir nos cœurs, veut conquérir nos vies. Mais il est conscient qu'on a déjà des gens qui dominent, que les humains ont déjà des gens qui dominent sur leur vie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord s'attaquer à ces hommes forts-là. Quelqu'un peut aimer la droiture dans le sens de ne pas voler, dans le sens de ne pas mentir, dans le sens de ne pas tricher, mais avoir des hommes forts. Et cet homme, en apparence, était correct, mais il avait un problème, il aimait beaucoup les richesses. C'était son Dieu, les richesses. C'était l'homme fort qui trônait dans sa vie. Et Jésus ne s'est pas trompé. Jésus lui a dit, c'est bien tout ce que tu fais, mais à quoi ça sert s'il y a deux dieux? Il faut qu'il y ait un seul Dieu. Tu as un Dieu dans ta vie. Tu as un homme fort dans ta vie. Commence par te désolidariser de cet homme fort-là. Là, tu peux me suivre. Cet homme a dit, ah non, je ne peux pas. Il s'en est retourné tout triste. Vous voyez comment, à un moment, Dieu peut révéler l'état spirituel de quelqu'un. Un jour, Dieu va l'amener à un nouveau, à un véritable stade de consécration, à un véritable stade d'abandon, de contrôle. Et c'est là que Dieu permet qu'on sache vraiment qui s'est donné à 100%. Parce qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui, en apparence, aiment l'Évangile, aiment Jésus, aiment les choses de Dieu. Mais nous avons l'impression qu'il n'y a pas beaucoup qui servent vraiment Dieu. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup qui ont des hommes forts. Et ce qui est grave, certains ignorent. C'est pourquoi notre thème, c'est discerner. Parce que certains peuvent en avoir, mais ils ignorent qu'ils ont des hommes forts, des gens de domination qui siègent dans leur vie et qui empêchent Dieu de régner. Et nous voulons prêcher ceci afin que chacun discerne quel homme fort pourrait être dans sa vie et qui empêcherait que Dieu s'exprime librement et puissamment pour régner. Et l'homme fort, ça peut être toi-même. Ça peut être ta logique. Donc c'est toi-même. L'homme fort, ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être l'argent. Ça peut être ton éducation scolaire. Ça peut être ton éducation familiale. Ça peut être le nom de famille. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement attachés à leur nom de famille et ils deviennent esclaves de ce nom-là. Et souvent, quand ce nom-là est en réalité a des origines non divines, eh bien, ils sont liés, bloqués par les esprits qui trônent dans leur famille parce qu'ils sont attachés à ce nom-là. Et il y a plusieurs hommes forts. Et les hommes forts, ça peut être aussi une passion qu'on a aimée autrefois quand on était dans le monde et dont on ne veut pas se détacher, même en venir au Seigneur, et qui est un frein pour notre vie spirituelle. Les hommes forts, l'homme fort, ça peut être de tes diplômes. Tu ne veux pas vivre oubliant ce que tu as eu comme diplôme. Tu veux vivre toujours en traînant ton passé comme étant une force. C'est ça l'homme fort. Donc tu traînes ton passé comme étant une force. Discernons bien aimé quel est l'homme fort qui empêche que le Seigneur agisse. Nous qui sommes pasteurs, nous voyons beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui se convertissent en se disant, tiens, en me convertissant, Dieu va commencer à me bénir financièrement. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter de faire les escroqueries que je suis en train de faire. Le prédicateur a dit que si je me convertis, Dieu est suffisamment riche pour me donner ce dont j'ai besoin. Cette personne-là arrête le vol, arrête les escroqueries, mais il n'a pas arrêté avec l'amour de l'argent. Ce qui fait qu'en se convertissant, son objectif va être « Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. » Et finalement, il n'est pas converti parce qu'il traîne toujours l'homme fort qui est l'amour pour l'argent. Mais lui, dans sa tête, il se dit « Mais je ne vole plus. Je ne fais plus des escroqueries. Je ne fais plus de magouilles. » Mais ça ne suffit pas, bien-aimé. Il faut que l'homme fort soit cassé, il soit écarté pour que Dieu seul règne. C'est ainsi que beaucoup, après avoir passé par une sorte de conversion, après être passé par une sorte de conversion apparente, finalement, ils se rendent compte que Dieu ne leur donne pas ce qu'ils pensaient recevoir de lui. Ils font marche arrière, petit à petit, pour vraiment sortir de la voie de Dieu. Donc attention, bien-aimés, discernons qui est l'homme fort, qui est comme une sorte de Dieu en plus du Dieu que nous pensons servir. Voilà, il faut réfléchir là-dessus. Nous prenons encore un exemple pour nous aider à comprendre. Actes des Apôtres au chapitre 8. Il est écrit ceci. Philippe descendu dans une ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Gloire à Dieu! Simon s'est converti. Simon qui était le grand magicien, le grand féticheur qui entraînait toute la population de Samarie. Il était comme le dieu de tous les Samaritains. Eh bien, même Simon a fléchi les genoux devant Jésus, s'est converti et il s'est fait baptiser. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire jusque-là? Gloire à Dieu. Voilà que Simon va témoigner de l'évangile. Il aime Dieu, il s'est converti. Mais lisons la suite. Verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Voilà, bien-aimé, la réalité va sortir. À un moment donné, Pierre et Jean sont venus et ils priaient pour les gens. Les gens commençaient à manifester la puissance du Saint-Esprit. Simon était étonné. Il se dit, tiens, moi aussi je veux ce pouvoir. Donc, quand Simon s'est converti, quand il a cru, il a voulu changer parce qu'il était étonné par les miracles de qui ? De Philippe. Peut-être lui faisait des miracles, mais ne guérissait pas les gens comme Philippe. Il s'est dit, tiens, j'accepte ce Dieu-là. Mais dans une logique mathématique, le Dieu-là, il est plus fort que le Dieu que j'ai servi avant. Je l'accepte. Mais Simon n'avait pas été délivré de l'homme fort qui consiste en l'amour pour la puissance magique. Simon n'était pas délivré de cet amour-là pour la puissance. Il était lié encore par l'homme fort qui donne envie aux gens d'avoir une puissance par eux-mêmes, comme une sorte de bien dans une poche. Vous savez, quand on était dans le monde, les gens que l'on connaissait qui avaient des fétiches, ils les avaient soit sur leur chaîne, sur leur médaille, soit on appelait ça pentacle, une sorte de petit sac autour d'un collier. Il y en a qui avaient quelque chose dans leur poche, il y en a qui avaient quelque chose autour des reins, une sorte de fil, même si ce fil-là peut se casser en se baignant pour montrer que ce n'est pas fort, mais ils pensaient avoir leur puissance sur ce fil-là. Et l'homme a toujours voulu avoir une puissance comme un bien dans sa poche. Il n'aime pas dépendre du robinet de Dieu. Il veut avoir beaucoup de bidons, beaucoup de tonneaux que lui-même va gérer. Le robinet, c'est par la foi que nous croyons que l'eau va sortir, parce que nous ne voyons pas l'eau. Tu ouvres et tu t'attends, c'est la foi, que l'eau sorte. Mais l'homme n'aime pas ça, parce que ça, c'est dépendre de Dieu. Il veut avoir un pouvoir que lui, il va gérer, contrôler. C'est le péché d'Adam. On a dit Adam, alors qu'Adam était déjà à l'image de Dieu, on lui dit, mais si tu manges du fruit, tu vas devenir comme Dieu. Mais toi, tu es déjà à l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore ? Donc, il voulait un pouvoir que lui-même va contrôler. Parce que le pouvoir qu'il avait dépendait de Dieu. Et Simon n'avait pas été délivré de cette soif de puissance contrôlée par l'humain. Donc, même quand il s'est converti, même quand il a cru, l'homme fort était toujours là. Il était toujours là. Ces deux exemples nous montrent, bien aimé, qu'un chrétien en apparence peut en réalité être serviteur de deux maîtres, l'homme fort et Dieu. En apparence, jusqu'au jour où, comme il est écrit dans Marc 4, 22, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, jusqu'au jour où Dieu va dévoiler cette réalité-là dans la vie de la personne. Il y a lui, il y a Dieu, mais il y a encore quelque chose. Et en ce moment-là, quand Dieu dévoile, il faut faire un choix. Comme quand Jésus a dévoilé au riche, il lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. C'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu n'était pas tout pour lui, qu'il désobéissait au premier commandement qui disait, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais avant, il ne le savait pas. Avant, il se considérait comme un bon religieux, un bon juif, parce qu'il pratiquait les lois morales apparentes que les humains peuvent voir. Mais il oubliait une grande loi, c'est la soumission totale à Dieu, l'appartenance totale à Dieu, l'amour total à Dieu, pour Dieu. Et Jésus, en lui disant, « Vends tous tes biens et suis-moi », il a démontré à cet homme que tu n'obéis pas à tout. Tu es un homme fort, il faut choisir. Ou c'est Dieu, ou c'est l'argent. Vient toujours un jour où dans la vie d'un homme, Dieu fait face à lui à travers la Bible, à travers les prédications, à travers les circonstances pour lui dire « Choisis ». Ou c'est moi, ou c'est l'homme fort. J'en ai marre de la cohabitation. Voilà, bien-aimé. Viens un jour où Dieu nous demande de choisir qui nous voulons servir, comme Josué avait dit aux enfants d'Israël. Et l'exemple de Simon est vraiment révélateur et grand. Parce que il n'y aurait pas la suite. On serait resté dans notre souvenir. Simon s'est converti un jour. Lui qui était un grand magicien. Mais en lisant la suite, nous nous rendons compte qu'il ne s'était pas vraiment converti. Il avait choisi Dieu parce qu'il pensait avoir beaucoup plus de puissance avec Dieu qu'avec Satan. Et je connais beaucoup de gens qui ont choisi Dieu croyant que ce qu'ils trouvent, ils gagnaient par magie ou bien par mensonge, escroquerie dans le monde, Dieu va le leur donner par la prière. Ce qui fait qu'ils viennent à Dieu en priant maintenant d'obtenir les mêmes choses qu'ils obtenaient par les escroqueries et le mensonge. Et maintenant, quand ils n'ont pas, et on voit la réalité, ils changent de camp. Donc, il y en a qui ont choisi Dieu en se disant, Dieu est plus fort que les magiciens, il me donnera ce que les magiciens ne me donnent pas. Donc, en quelque sorte, ils ne se sont pas convertis à 100%, ils ont un homme fort. Cet homme fort, c'est ce qu'il désire. Il désire ça plus que Dieu lui-même. Or, quand nous avons Jésus, nous avons tout. Donc, s'il y a encore quelque chose qui, à chaque fois, nous ramène en arrière à travers des soucis, à travers des pensées, réfléchissons à l'histoire de l'homme fort. N'y a-t-il pas quelque chose qui prend la place de Dieu? N'y a-t-il pas quelque chose qui est supérieur à Dieu? Et souvent, quand Dieu veut maintenant nous secouer, cette chose-là va commencer à nous créer des problèmes. Ça va devenir un problème. Là, nous avons vu, ça a créé des problèmes à Simon. Hein. Pierre, là, lui a dit, attention, je te maudis. Donc, cet homme fort-là, lorsque Dieu veut l'enlever, on va se rendre compte, tiens, vraiment, je commence à avoir trop de problèmes. Je commence à trop m'énerver. Je commence à trop parler. Je commence, en quelque sorte, tu es dirigé par quelque chose. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Et quand cette paix-là n'est plus dans ta vie, tu commences à trop réfléchir, trop penser, trop parler, arrête-toi et réfléchis sur ce qui te dirige maintenant. Là. Sois honnête, sois humble pour réfléchir à cela. Les hommes forts bien-aimés, c'est une réalité que personne ne vous trompe. Vous savez, Paul avait vaincu Diane d'Éphèse quand il était vivant. Et pendant plusieurs siècles après son départ, dans Actes 19, il a prêché contre Diane d'Éphèse. Et Diane était représentée par des petits temples que les bijoutiers vendaient. Paul a prêché et les gens n'achetaient plus ces temples-là. Ça a créé même une émeute à Éphèse. Et Diane représente la Marie des catholiques d'aujourd'hui. Et vous savez, quand est-ce que l'adoration de Marie a commencé et où? Ça a commencé au 4e siècle et à Éphèse. Donc, Paul a vaincu, Paul est parti, mais l'homme fort d'Éphèse est revenu encore. C'est pour nous dire que c'est une réalité. Il y a des choses qu'on a connues dans notre passé, dans nos cultures d'origine, dans nos éducations familiales. Il y a beaucoup d'hommes forts qui continuent à diriger certaines vies jusqu'à aujourd'hui, en même temps que ces vies-là semblent être dirigées par Dieu. Mais viendra un jour, il y aura le conflit. Voilà, bien-aimés. Nous connaissons des gens qui, ils sont chrétiens jusqu'au jour où il y a un problème dans la famille, ils redeviennent païens. Ils arrivent à faire des palabres dans la famille où il faut cracher d'abord sur la terre avant de parler. Il faut faire certains gestes rituels. Ils oublient complètement que Jésus nous a affranchis de tout ça. Donc cet homme fort va se révéler un jour. Moi, je dis souvent, venir à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Lire la Bible, tout le monde peut le faire. Même les satanistes, même les sorciers. Chanter, tout le monde peut le faire. On reconnaît les chrétiens dans des moments, dans des situations de crise, dans des situations difficiles. Là, le chrétien est prêt à mourir plutôt qu'à se compromettre. Mais dans des situations de crise, dans les situations difficiles, c'est là que vous allez voir ceux qui sont liés par des hommes forts, ils vont récupérer leurs hommes forts. Nous avons entendu des gens dire, moi autrefois j'étais boxeur, s'il blague avec moi je vais le taper, alors que c'est un serviteur de Dieu. Donc il n'a pas encore été délivré de l'esprit de bagarre. Mais il a donné l'impression d'être délivré de tout ça. Jusqu'au jour où on a voulu l'humilier, c'est là qu'on sait maintenant que cet homme n'est pas encore libéré. Il a encore toujours son homme fort. Clairement, Simon, clairement, il a dit « Je vais acheter ça avec l'argent. » Clairement. Lui, il ne s'est même pas caché. « Je vais acheter ça avec l'argent. » Bien-aimés, examinons-nous quel est l'homme fort. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais dès que viennent leurs femmes, leurs décisions changent. Il y a même des amis qui disent « Oh, mais on était avec Germain ici, avec Jean ici, mais le comité d'entreprise a changé la décision. » Il y a des gens qui prennent de grandes décisions. Dès que leur mari vient, la décision change. Parce que l'homme fort, c'est le mari. L'homme fort, c'est la femme. Il y a des gens qui prennent la décision. Dès qu'ils voient leur papa arriver, la décision change. Il y en a qui prennent des décisions en Christ. Dès que un de leurs enfants arrive, la décision change. Il y a des enfants qui sont des hommes forts. Vous êtes dans certaines maisons, vous sentez qu'ici, c'est l'enfant qui dirige. Ah oui, c'est une réalité qu'on voit chez les chrétiens. Et vous allez voir toujours que la vie de telle personne n'arrive pas à exploser en Christ. N'arrive pas à porter des fruits tels que le Seigneur l'attend. Parce qu'il y a un homme fort, que ce soit un enfant, que ce soit l'argent, que ce soit le papa, la maman, le mari, la femme, il y a un homme fort. Du moment qu'il y a un homme fort, ta vie est bloquée. Pour que ta vie avance, il faut que cet homme fort-là soit vaincu. Bien-aimé, Paul, lui, ne s'est pas trompé. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais lisez, quand vous prendrez vos Bibles, lisez Actes des Apôtres, chapitre 17. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 19. Paul, directement, il a compris qu'ici à Athènes, l'homme fort, c'est la religion. Ils ont des statues. Même il y a une statue à un Dieu inconnu. Et quand il a commencé sa prédication, il n'a pas dit « Arrêtez le vol, arrêtez le mensonge, c'est pas bon. Et venez à Jésus, il va vous donner ceci. » Non, 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 il a dit non. L'homme fort là que vous avez, la religion, c'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une statue. Il a attaqué la chose qui lie la personne. Vous savez, cet enseignement, je l'ai apporté au Maroc, au groupe d'évangélisation, pour que dans l'évangélisation, nous sachions qui est l'homme fort de la personne. Souvent, certaines personnes disent, mais comment tu as pu parler à ce juif-là, il t'a compris et il veut changer. Moi, je dis, parce que je connais son homme fort. Je connais ce que les rabbins les enseignent, leur enseignent. À partir de ce que les rabbins leur donnent comme cours, leçon, moi, je sais dans quoi, qui dirige leur vie. Et je sais attaquer ce qui dirige leur vie. C'est comme ça qu'on peut amener quelqu'un en Christ. Il faut vaincre l'homme fort. Il ne suffit pas de promettre beaucoup de choses. Il ne suffit pas de dire qu'il faut arrêter le péché. Il faut déceler par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, l'homme fort de la région, l'homme fort du coin, l'homme fort des personnes. Si nous les connaissons depuis longtemps, nous devons déceler, savoir que dans la vie de telle personne, voilà l'homme fort. Et qui empêche que cet homme soit libre. Il est enchaîné par cet homme fort. C'est pourquoi Jésus dit, quand on arrive dans une maison, on ne peut pas piller cette maison sans avoir lié l'homme fort, celui qui trône dans cette maison-là. Et c'est ce que nous devons comprendre pour la vie de chacun d'entre nous. Jésus ne peut pas s'exprimer clairement, c'est ça piller. Hein? Donc enlever le mal, enlever le péché, t'amener dans sa volonté, il ne peut pas le faire clairement, comme il faut, tant qu'il y a des hommes forts. C'est pourquoi il faut les discerner. Qui me fait peur? Les hommes forts, souvent, ils nous font peur. Qui me fait peur? Mon enfant? Mon père? Ma mère? Qui me fait peur? Ma culture? Ah oui, oui. Qu'est-ce qui me fait peur? Beaucoup de gens se sont convertis, mais ils sont toujours rattrapés par les hommes forts. Parce qu'ils ont voulu juste suivre Jésus, mais sans se détacher de l'homme fort. Beaucoup ont suivi Jésus sans se détacher de l'homme fort. C'est le moment d'y réfléchir. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des hommes forts? Des gens qui font que, devant eux, tu n'arrives pas à vivre ta foi normalement. C'est comme des hommes forts. Des gens qui changent tes décisions, ce sont des hommes forts. Les décisions que tu as prises valablement en Christ, ils changent cela. Il y a des gens même, ils changent l'église avec quelqu'un. Ils sont 3 à 4. Lorsque un change d'église, eux aussi changent d'église. Lorsque celui-là encore change d'église, donc, c'est-à-dire que ce n'est plus Dieu qui les conduit, c'est la personne qui les fait changer d'église. C'est l'homme fort, c'est lui le véritable pasteur. Bien-aimé, à un certain moment, il faut que ce soit Jésus qui te conduise. Et tu dis, moi je ne suivrai que Jésus. C'est ça, bien-aimé. Cherche bien qu'est-ce qui peut être l'homme fort. Le Saint-Esprit te dirigera. Tout ce qui est un blocage, tout ce qui enlève toute force en toi, lorsque tu veux affirmer la vérité, c'est comme un homme fort. Il faut le briser, il faut prier que Dieu te délivre de cela. Bien-aimé, tant que tu es lié par l'homme fort, tu ne peux pas vivre le plan de Dieu. Parce que Dieu ne cohabite pas. Est-ce que c'est ta famille? Réfléchis à cela. Est-ce que tu es capable de tenir tes positions en face d'une personne ou d'une telle autre personne? Si tu es incapable, donc c'est un homme fort dans ta vie. Parce qu'il arrive à te changer de décision par rapport à Dieu. Donc c'est un homme fort. C'est dangereux. Revenons à la parole de Dieu. Et nous allons lire l'exemple de quelqu'un qui a été converti et qui a vaincu l'homme fort. En même temps, c'est ça qui doit être fait. Luc 19, 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Qu'est-ce qui était légal? C'est la partie du verset 8 qui dit ceci. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était quelque chose prévu dans la loi de Moïse. Quand tu as pris le bien de quelqu'un, dans certaines conditions, tu devrais lui rendre le bien fois 4. Donc, sachez, en faisant cet acte-là, de rendre les biens volés, multiplié par 4, était en accord avec Dieu, totalement. Totalement. Il pouvait s'arrêter là et de dire, bon, je vais rendre tout ce que j'ai volé, multiplié par 4. Il était en accord. Mais Zachée savait que ce n'était pas ça le problème. Mais pourquoi il volait les gens? Parce qu'il aimait l'argent. Il aimait les biens. Le problème, ce n'est pas les biens volés. Le problème, c'est qu'est-ce qui te conduisait à voler? C'est lui l'homme fort. Parce que tu aimais les biens. Il a dit, oh, à partir d'aujourd'hui, je n'aime plus les biens. Donc, je prends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Ça, ce n'était pas quelque chose que le Seigneur lui demandait de faire. Enfin, la Bible, la parole lui demandait de faire, la loi lui demandait de faire. C'est quelque chose qu'il a fait lui-même personnellement parce qu'il fallait qu'il choisisse entre deux maîtres. L'amour, Dieu ou les biens. Il a dit, je veux faire un acte pour à jamais me désolidariser, rejeter l'amour pour les biens matériels. Voilà. Je vais faire un acte. Je donne mes biens aux pauvres, la moitié de mes biens. Et il en avait beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le dessin animé qu'on a sur tout ça, où quand Zachée donne les biens aux pauvres, il commence à sauter de joie, à danser. Et à chaque fois, les gens frappaient à sa porte, il leur restituait. Il sautait de joie, il dansait, parce qu'il n'avait plus qu'un seul maître, c'était Jésus. Alors qu'il pouvait dire, bon, je vais accomplir la loi, je vais rendre ce que j'ai volé fois 4, mais j'étais quand même inspecteur des impôts, j'ai ma propre richesse, je la garde et je vais servir Dieu avec cette richesse. Zachée a dit non, 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 je veux avoir un seul maître. Si je volais, c'est parce que j'aime trop les biens. Je ne veux plus voler, mais en plus, je ne veux plus aimer les biens. Libéré de l'homme fort. Jésus-Christ dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut, Jésus l'a proclamé. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de grand et de complet. C'est complet. Ce n'est pas seulement une question de religion venir le dimanche au culte. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est une vie abondante en Christ. Les choses coulent, on devient comme un grand arbre, comme il est écrit, je vous ferai de vous des térébintes de justice. Et il est écrit, le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé que tu sèmes, après ça devient un grand arbre sur lequel viennent se reposer même les oiseaux. C'est ça le salut de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui des gens venir dans les églises. Non, le salut c'est une vie abondante qui va se manifester. J'aime le terme, le fleuve d'eau vive vont se manifester. Et ça ne se manifeste pas dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles, parce qu'il y a des hommes forts qui ne sont pas vaincus, qui ne sont pas discernés, qui ne sont pas mis de côté. C'est le moment, bien-aimé, de mettre les hommes forts de côté parce que nous voulons une vie abondante en Christ. Une vie de feu où Jésus-Christ règne et s'exprime clairement. Il faut mettre l'homme fort de côté. Zachée a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ce qui ne lui avait pas été demandé par la loi. Dieu va nous amener à un moment donné, dans certaines circonstances, à nous libérer de l'homme fort de notre vie. Et il peut y en avoir beaucoup. Dieu va permettre des circonstances. Vous savez, il y a des gens pour qui certains chrétiens sont prêts à mentir parce que c'est des gens qui ont une trop grande place dans leur vie. Il y a des gens pour qui certains chrétiens sont prêts à injurier. Ils sont prêts à prendre les biens qui ne sont pas eux, parce que ces gens-là ont une grande place dans leur vie. Ils ont pris la place de Dieu. C'est les hommes forts. Nous devons être libérés de tout ça. Beaucoup de pasteurs ont traîné des hommes forts. Ils se convertissent, mais bon, la tradition familiale, c'est la tradition familiale, l'homme fort. Je me convertis, mais je suis un nom de famille, avec fierté, homme fort. Que tu le veuilles ou pas, tu seras bloqué un jour. Comme quelqu'un a dit, c'est comme le fil, hein, la laisse, le fil qu'on attache à une chèvre ou à un chien. Vous savez, aujourd'hui, on a des fils technologiques. Hein, c'est-à-dire que le maître, il freine quand il veut. Quoi. Vous savez, il y a aujourd'hui... Vous voyez des personnes âgées traîner des petits chiens avec des fils technologiques. Donc le chien peut dérouler le fil. Dès que le maître appuie sur un bouton, ça se bloque. C'est ça les hommes forts. C'est-à-dire que tu peux aller jouer, mais au moins, à un moment, tu vas aller plus loin. paf, bouton, tu es bloqué. Et ces hommes forts-là bloqueront ta vie. Tu auras l'impression que tu joues. Tu auras l'impression que, ah ben je viens à l'église, je prie. Mais non, en réalité, tu ne peux pas aller plus loin qu'à un certain niveau. Tu ne peux que bouger dans un certain cercle. Mais à quoi ça sert? Parce que l'évangile, c'est la puissance infinie de Dieu. Un homme qui est limité, un chrétien qui est limité dans sa vie, dans son expression en Christ, eh bien, il est en laisse, comme un chien en laisse. Il y a un homme fort qui l'empêche d'aller plus loin que cela, bien-aimé. Voyons, bien-aimé, la culture. Moi, je connais beaucoup de pasteurs congolais qui mentent, puisque dans ce système-là congolais, le mensonge est devenu quelque chose de normal chez les païens. Et même des serviteurs de Dieu. Vous savez, dernièrement, les bien-aimés du Maroc m'ont dit qu'ils avaient invité un pasteur du Congo. Le jour où c'était convenu d'aller le chercher à l'aéroport, ils arrivent à l'aéroport, le monsieur n'est pas là. Oh. Vous savez, déjà, Casablanca, pour aller à l'aéroport, c'est une trotte, hein? 50 kilomètres environ, peut-être. Ou 30 kilomètres. Le monsieur n'est pas là. Ils appellent, ils tombent sur sa femme au Congo. Sa femme dit, ah mais attendez, je vais aller voir. Il rappelle dans 4 minutes ou 5 minutes. Ah non, mais le pasteur, il est parti à Kinshasa. Donc, c'était à Brazzaville. Le pasteur, il est parti à Kinshasa, bien-aimé. Toi, tu as un mari, tu ne sais pas. Il va voyager, toi, tu ne sais pas. Tu vas le savoir en vérifiant dans la chambre, bien-aimé. Mensonge. Ce qui est grave, c'est qu'ils mentent tranquillement. C'est-à-dire que il y a des choses pour mentir. Il faut quand même trouver un mensonge un peu costaud. Là, tranquillement, non, non, mais il a traversé le fleuve. Donc toi, tu ne savais pas, toi, sa femme. Il y a des gens, on les appelle, il dit à sa femme, je ne suis pas là, bien-aimé. Je ne veux pas attaquer un pays ou un... Mais je veux dire la vérité. Le mensonge est devenu monnaie courante au Congo. Et les gens mentent comme si c'était des bonbons. Le mensonge est plus sucré que les bonbons. Ce qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu continuent, donc ils mentent. Le pasteur Emma m'a raconté qu'il était avec un pasteur, congolais bien sûr, on appelle le pasteur. Ils étaient en Belgique, or lui il avait rendez-vous en Hollande. C'est des pasteurs de la Hollande, mais ils avaient fait un petit voyage en Belgique. Et maintenant il a oublié son rendez-vous et on l'appelle. Il dit, ah d'accord, je suis tout prêt là, bon je vais voir comment on va faire la chose. Au lieu de dire carrément... Non, ils étaient plutôt en Hollande, toujours. Au lieu de dire, j'ai oublié le rendez-vous, il dit, non, là, nous sommes en Belgique, donc il y a eu un problème, nous sommes en Belgique. Oh, le pasteur regarde et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il croyait qu'après avoir raccroché, le monsieur sera honteux. Le monsieur, avec beaucoup de courage, il dit, pasteur, tu as vu comment je l'ai tapé, hein? Voilà. Donc, mentir est devenu quelque chose de normal. Et quand tu ne prends pas conscience de ça, tu vas devenir pasteur, tu vas continuer à mentir parce que tu n'as pas détaché l'homme fort de ton pays d'origine. La culture d'origine a des hommes forts qui nous collent. Qui nous collent. Quand je voyage en France, je suis dépassé par bien-aimé les vieilleries. Les gens me disent, c'est la Deuxième Guerre mondiale, on a trop souffert dans la Deuxième Guerre mondiale, on apprend à garder. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est un homme fort de la pauvreté qui est en train de traîner là. Quelqu'un va garder une chaise pendant 55 ans. Non, bien-aimé. Parfois, tu peux te blesser. Moi, je dis non, ça, c'est un homme fort. Et j'attaque ça dans les prédications. Bien-aimé, si tu es prédicateur, il faut attaquer les hommes forts. Sinon, les gens ne seront pas convertis. Quelqu'un va traîner des fourchettes de son arrière-grand-père. Me dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fourchettes technologiques aujourd'hui. C'est un esprit de pauvreté. C'est-à-dire qu'une telle personne, quand Dieu va lui dire, écoute, tu dépenses 1 million pour une campagne d'évangélisation, il dira, quoi? un million pour une campagne d'évangélisation? Non. On va utiliser nos vieux haut-parleurs. On va utiliser. Puisque il ne, pour lui, dépenser, c'est perdre. Or, pour l'Américain, dépenser, c'est investir. Mais pour le Français, dépenser, c'est perdre. Parce qu'il a été éduqué à garder la soupière, à garder. Et donc, c'est un blocage. Or, l'évangile, c'est brillant. Ça explose. C'est le fleuve d'eau vive. Ça ne se bloque pas. Un jour, j'ai été même dans une maison. C'était comme un trou, bien-aimé. Mais le monsieur, il a de l'argent pour se construire même 4 maisons. Mais le plancher, c'était comme un trou. Puisque c'est un plancher qui n'a pas été touché depuis plus de 100 ans. Bien-aimé. Mais il peut s'acheter 5 maisons neuves. Il a l'argent. Mais esprit de pauvreté, blocage, esprit de vieillerie. Non, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on va traîner des démons dans la maison. L'assiette d'un tel, de l'arrière-grand-mère, tu ne sais pas ce qu'il faisait comme pratique. Tu ne sais pas quoi servait cette assiette-là. Peut-être ça servait à lire l'avenir. Donc, on garde les vieilles choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, c'est la Deuxième Guerre mondiale, pasteur, on a souffert, bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui on est en guerre? Attendons la guerre pour garder. Là, on est en paix. Bien-aimés, ce sont des blocages. Ce sont des hommes forts. Si tu es prédicateur, il faut attaquer ça. Quand tu es dans un lieu, il faut attaquer les hommes forts qui empêchent les gens d'entrer dans la liberté de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la liberté. Je vois même des journalistes païens s'adapter aux endroits. Ils vont en Colombie, ils s'adaptent. Mais nous, les chrétiens, nous continuons à traîner toujours les hommes forts. Alors que même les païens ont compris qu'il faut changer. Bien-aimés. C'est ce qui fait que les gens sont toujours attrapés par les hommes forts de leur culture, de leur éducation. Les hommes forts qui sont entrés dans les circonstances de la vie. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme étouffé? Les hommes forts vont étouffer ta vie chrétienne. Et tu vas te sentir comme étouffé. Quelque chose comme qui t'énerve. C'est qu'il y a un combat entre Dieu et l'homme fort. Ça crée une sorte d'énervement. Et certains chrétiens vont commencer à t'énerver. Parce que ils sont trop libres. Ils sont trop forts. Tu ne te sens pas comme eux. Parce qu'eux, ils sont libérés. Mais toi, tu gardes encore les hommes forts. C'est pourquoi tu n'es pas épanoui. Bien-aimés, soyons libérés de tout cela. Dieu veut le faire. Beaucoup ont été rattrapés et sont encore rattrapés. Vous savez, les États-Unis ont été, entre autres, ont été formés par deux puissances. La puissance de Dieu. D'un côté, parce que c'est les chrétiens qui fuyaient l'Europe. C'est pourquoi nous voyons les États-Unis un peu les Américains être attachés à Dieu. Donc il y a cette puissance-là qui est là. Mais il y a une deuxième puissance qui a fondé aussi les Américains, les États-Unis. C'est l'amour de l'argent. Je crois que certains ont entendu déjà parler de la ruée vers l'or. Où les gens, les États-Unis ont été traversés rapidement parce que les gens devaient aller chercher l'or en Californie, croyant trouver beaucoup d'or dans ces régions-là de Californie. Et aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que c'est une société dominée par l'argent. Dominée par l'argent. C'est l'homme fort. Vous allez dans les églises, les offrandes, vous pouvez même payer par carte de crédit, certaines églises. Vous imaginez dans une église, sur ta chaise, à côté, il y a une carte de crédit, un endroit pour mettre ta carte de crédit. Le pays dominé par l'argent. Il faut dénoncer ça, bien-aimé. Si ce n'est pas dénoncé, la mort va s'en suivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons ce qui arrive aux Américains. Le pays le plus endetté au monde. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, tout s'écroule. L'amour de l'argent. Et allez dans les églises, vous allez voir l'amour de l'argent. On ne prêche que sur l'argent. Parce que les prédicateurs, les serviteurs de Dieu n'ont pas voulu combattre l'homme fort qui était l'argent. Pendant que quelqu'un est en train de prêcher, on met un encart en bas à droite pour faire la publicité d'une série de DVD qui coûte $30. On met même le prix, bien-aimé, pendant que lui est en train de parler de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le pays est sous l'emprise de l'argent. Même si en apparence il parle de Dieu, mais il a un autre maître encore. Oh, Jésus a dit, on ne peut servir deux maîtres. Il faut choisir. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou c'est Dieu, ou c'est autre chose. Mais on ne peut pas traîner des maîtres dans nos vies. Ça ne peut être que Dieu seul. Bien-aimé, c'est le moment du choix. Regarde en toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre en Christ? C'est ça l'homme fort, bien-aimé. C'est ça l'homme fort. Qu'est-ce qui t'empêche d'être intégré aux autres? C'est ça l'homme fort. Il y en a qui ont une fierté de leur origine. C'est ça l'homme fort. Qu'est-ce qui t'empêche? Alors, quand tu vas discerner cet homme fort, sois honnête pour dire, Seigneur, je me rends compte que ce qui me fait fuir ta présence, c'est que je me crois fort. C'est pourquoi les chrétiens avec leur danse, je les trouve bas. Moi, je suis quelqu'un de distingué. C'est ça l'homme fort. Reconnais et repens-toi. Seigneur, je me rends compte que ce qui m'empêche d'entrer dans une conversion totale, c'est que je ne suis pas d'accord en réalité avec ce que dit la Bible. Vous savez, il y a plein qui sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas d'accord avec plein de choses qui sont écrites dans la Bible. Plein! Mais ils se disent, bon, venons quand même, on ne sait jamais, ça peut tourner mal, moi je vais au paradis. Voilà. Non? Donc, mais concrètement, ils n'ont pas une vie épanouie. Ils se disent, oh, vaut mieux quand même avoir de pions de sécurité. Je vais aller quand même à l'église, satisfaire les parents, comme ça, bon, Dieu se souviendra de ça. Oh, bien-aimé, non. Dieu ne peut pas t'amener avec un homme fort en toi. Il faut vivre une vie pleinement épanouie avec le Seigneur. Pleinement. Il n'y a pas d'autre vie. Souvenons-nous de l'Apocalypse 2. Je souhaiterais que tu sois froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, je te vomirai. Le Seigneur veut des gens bouillants à 100%. À 100%. Mais cependant, il y a des choses qui bloquent pour qu'on entre dans ces 100%. C'est des hommes forts. Discernons-les. Parfois, c'est la jalousie. Tu es jaloux des autres. Et ça t'empêche de t'épanouir. Parce que quand on est jaloux, on a toujours l'impression que l'autre a mieux que nous. Même si, d'une manière objective, nous on a mieux, mais on a toujours l'impression que l'autre a mieux. Donc disons au Seigneur, je crois que ce qui me bloque, c'est que je suis jaloux. Je vais être le premier partout. Et quand je vois que les autres me dépassent en sourire et en joie, ça m'énerve. Et la vie chrétienne m'énerve. Parce que là-bas, au moins, je suis perdant. À l'école, je suis le premier. À tel endroit, je suis le premier. Côté maquillage, je suis le premier. Mais la première plutôt, puisque les hommes encore n'ont pas encore commencé. Donc, mais quand on arrive à l'église, j'ai l'impression que je suis l'avant-dernière. Puisqu'il y a des gens qui ont plus de joie que moi. Il y a des gens qui dansent alors que moi, je n'arrive pas à danser. Et on commence à haïr la vie chrétienne juste par jalousie. Disons la vérité à Dieu et à nous-mêmes. Qu'est-ce qui me bloque et qui m'empêche d'avoir une vie épanouie? Laissons le Saint-Esprit nous parler. Ce n'est pas en venant à l'église qu'on a une vie épanouie. La vie épanouie se démontre chaque jour. Bien-aimés, cherchons grâce au Saint-Esprit et disons à l'homme fort, c'est fini aujourd'hui. Je ne cherche plus à être le premier. Je ne cherche plus à traîner ma culture, mais je cherche à servir Dieu. Amen. Ça fait aujourd'hui, on a nos bien-aimés qui sont partis, des vrais Normands qui sont partis au Congo servir Dieu. Mais bien-aimés, vous pensez que si tu ne vins pas les hommes forts, tu peux faire un tel déplacement? Tu ne peux pas, bien-aimés. Il y a de telles réalités qui sont contraires à ce que nous vivons ici qu'il faut avoir appris à dire « Je suis citoyen du ciel ». Ma logique d'entrée, repas solide, fromage, dessert et puis café, je dois arrêter avec ça. Il y a d'autres logiques ici, bien-aimés. On va mettre, au lieu du bon beurre de Normandie, on va mettre l'avocat dans le pain, bien-aimé. Il faut accepter de changer, il faut accepter d'entrer avec Jésus dans quelque chose de libre, qui te rend libre. Et quand je les vois vivre là-bas, je bénis Dieu, je dis, ils ont compris qu'ils étaient citoyens du ciel. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi moi, je fais exprès, quand je vais dans certaines maisons françaises, je prends le café pendant les repas. Exprès pour casser la logique gastronomique exagérée qui est un homme fort, bien-aimé. Je dis, l'essentiel, c'est les intestins qui vont faire le tri. Nous, on avale et puis, au nom de Jésus-Christ, les molécules iront au bon endroit. Amen. Ce sont des choses qu'on peut trouver petites qui peuvent s'avérer problématiques parce qu'il y a quelqu'un qui peut être offusqué. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est freiné, bloqué parce qu'il t'a vu faire ça. Et ou toi, tu vois quelqu'un d'autre faire ça. Bien-aimé, il faut refuser qu'il y ait quelque chose qui t'enlève la paix alors que ce n'est même pas un péché. C'est parce que c'est toi qui es lié à un homme fort. Bien-aimé, sur BFM, je vois à un moment donné toute une émission sur les fromages et le vin. Donc, quel fromage avec quel vin? J'ai dit, Seigneur, je vais tomber évanoui là. Ce n'est pas possible. Et il y a un type qui sort là, maître fromager. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Pour le fromage, on peut devenir maître, faire des études. J'ai dit, non. Nous allons résister à tout ça. Je prends le fromage et mange tranquillement. Avec du jus d'orange. Maintenant, que ça offusque les maîtres fromagers, c'est leur problème. Nous, on est des citoyens du ciel. Amen. Maître fromager. Oh, bien-aimé. Non. Il faut être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut plus que le mariage devienne un problème pour toi. Tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas la joie. C'est ton homme fort. Et vous êtes le premier, quand vous vous mariez, venir dire, j'en ai marre. Oh, mais c'est toi qui avais cherché. C'est ça le problème. Parce que tu n'as pas mis Dieu en avant. Il faut bâtir avec l'Éternel. Tout le reste est secondaire. C'est Dieu qui donne la vraie joie. Amen. C'est Dieu qui donne la vraie joie. Nous qui sommes pasteurs, nous avons beaucoup plus de problèmes avec les mariés qu'avec les célibataires. Voilà. Qui viennent se plaindre dans le bureau. Mais il y en a pour qui le mariage est devenu une idole. Ce n'est pas normal. Jésus doit nous suffire. Comme je chante souvent, « Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. Au bonheur suprême. » La Bible me le dit. Si Jésus m'aime, je suis satisfait, je suis rempli, je suis dans la paix. Je n'ai pas besoin de traîner des cultures, des éducations, qui deviennent un obstacle pour moi pour avancer avec l'Évangile. Bien aimé, vous allez aller au Maroc, vous mangez avec un Marocain, il rôte. Et pour lui, en rôtant, pendant le repas, carrément, parfois il rôte devant ton assiette. Mais pour lui, en rôtant, ça montre que la nourriture est bonne. Maintenant, si toi tu viens avec des logiques, oh madame, tu ne peux pas évangéliser les Marocains. Donc tu es bloqué, ta vie en tant qu'évangéliste est bloquée. Elle est bloquée. Parce que lui, dans sa culture, quand on rôte, c'est un sujet de satisfaction, ça honore la personne qui a préparé. Mais toi, tu vas venir. Bien-aimé, il faut être libre en Christ. Amen. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, que ce soit pour Christ. Que je balaye que je chante, que ce soit pour Christ, je suis libre, bien-aimé. Les positions que je tiens devant un chrétien, que je les tienne devant le païen, devant mon père, devant ma mère, devant mes enfants, bien-aimé. Moi, j'ai dit une chose, ma maison, c'est ma maison. Toi, quel est cet enfant? Je te donne le lait, je te donne la nourriture, et tu vas refuser le Dieu qui donne tout ça. Je répète tout le temps, mes enfants, attention, ce que vous mangez là, c'est mon Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui donne. Et toi, tu vas réveiller un jour, t'opposer à mon Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous donne la paix, mais on ne touche pas à mon Dieu. C'est l'homme fort de ma vie. Ah oui, bien-aimé, c'est l'homme fort. La Bible, c'est l'homme fort de ma vie. On ne touche pas la Bible. Tu peux venir, comme je suis à la télé, bien-aimé, des gens qui font des films, tout un film, pour montrer comment les pterosaurismes, des animaux qu'ils ont imaginés, ils vivaient autrefois. Quand tu regardes le film, tu as l'impression qu'ils avaient vu ça. Ils ont inventé, j'ai dit, mais attends, la Bible dit tout a été créé en 6 jours. Maintenant, si toi, tu ne crois pas, on attend la fin du monde. On parlera avec la personne qui a vu quand il avait fait tout ça. On saura qui a dit la vérité. Et il y a des chrétiens qui ont honte de tenir de telles positions. Ils croient qu'on va les traiter de bêtes. Bien-aimés, c'est eux qui sont bêtes. Ils n'ont rien vu, ils font des films de ceux qui n'ont... Donc, vous vous imaginez, si quelqu'un doit faire un film sur toi, il commence à dire, à l'âge de 3 ans, Jacob, il a pris le biberon dans tel berceau, c'était de telle couleur. À l'âge de 8 ans, après, nous pensons qu'il est parti dans une école à Lille. Alors, puisque là-dedans, il y en a même qui ont trouvé à partir de sa dent qu'il ne vivait pas en Écosse, il vivait dans tel endroit. Donc, je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, on prend un squelette, on reconstitue toute sa vie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, quand toi, tu vas dire que tout ça, c'est faux, on te dit, tu n'es pas intelligent. À partir d'un squelette, on sait là où il a mangé, là où il a tourné, dans quelle maison. Il devait avoir plusieurs frères et sœurs. Oh, bien-aimé, c'est des bobards, c'est des racontards. La vérité, c'est la Bible. Amen. Dieu tient le monde entier dans sa main. C'est ça la vérité. Et nous aimons ce Dieu-là et nous le prêchons avec force et puissance. Il est l'homme fort, véritable. Comme Daniel a dit, roi Nebuchadnezzar, on ne va pas adorer ta statue. Nous, on a un Dieu que personne ne voit, mais nous, on le connaît. Que Dieu soit béni. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, que l'Éternel soit le seul homme fort. Que la parole de Dieu soit le seul homme fort de notre vie. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu bien-aimé, nous venons te remercier, toi qui veux toujours nous délivrer, nous libérer. Nous voulons faire un examen de chacun d'entre nous, Seigneur, un examen personnel pour réaliser qu'est-ce qui est un frein qui nous empêche d'être libres dans l'Évangile, qui nous empêche d'être épanouis, joyeux. Nous voulons discerner cela et t'abandonner cela parce que la délivrance vient de toi. Tu nous as dit à la croix, tout est accompli. Tu nous as dit, ô Seigneur, que toi, tu as déjà lié l'homme fort de ce monde, Satan, et que nous pouvons maintenant te servir librement. Et nous te bénissons pour cela. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous repentir pour être délivrés de tout homme fort qui siégeait encore dans nos vies. Que ce soit l'argent, que ce soit notre environnement, que ce soit nos traditions, que ce soit nos cultures, que ce soit les habitudes du pays d'origine. Un respect anormal envers ses parents, une peur de ses enfants. Nous voulons être libérés de tout cela, Seigneur. Nous voulons être libérés de l'amour de l'argent. Nous voulons être libérés du mensonge. Nous voulons être libérés de l'orgueil de la vie qui fait de nous nos propres hommes forts, les hommes forts de nos propres vies, Seigneur. Oh Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir laissé autre chose régner dans notre vie. Nous voulons que toi seul règnes, que tu sois libre en nous, Seigneur. Alléluia. Merci d'agir afin que chacun prenne conscience des hommes forts, des gens qui l'évangélisent, afin d'attaquer ces hommes forts. Comme Paul avait attaqué Diane d'Éphèse à Éphèse. Comme Paul avait attaqué les statues à Athènes. Parce que c'était elle qui trônait dans la vie des gens. Aide-nous à attaquer les hommes forts. Ainsi, les gens vont se convertir à 100%, pas à moitié. Oh Seigneur, nous voulons aujourd'hui dépendre que de toi. Nous prions que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous libère de tout esprit de mort, de tout esprit de tradition familiale, de tout esprit de la culture d'origine, de tout esprit de convoitise par rapport à l'argent, par rapport au mariage, par rapport à plein de choses qui satisfont les intérêts terrestres. Que ton Esprit Saint nous libère, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Que ce jour soit un jour nouveau où il n'y aura qu'un seul homme fort dans nos vies, l'éternel Dieu des armées qui a fait les cieux et la terre. Ô Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Seigneur. Célébrons la délivrance en Christ. Alléluia. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the gift of my past. Oh, I've traded my shackles for the glory of song. I'm free, praise the Lord, free at last. Oh, I've traded my shackles for the glory of song. I'm free, praise the Lord, free at last.
I'm free, je suis libre.
I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the gift of my past.
Oh,
I've traded my shackles for the glory of song. I'm free.
Amen.
Praise the Lord. Oh, I've traded my shackles for the glorious song. I'm free with the Lord. Free.
Même si tu connais pas l'anglais, tu vas commencer la première leçon aujourd'hui. I'm free.
I'm free from the fear of tomorrow. I'm free. From the gift of my past.
Oh,
I've traded my shackles for the glory of song. I'm free.
Oh,
praise the Lord, free at last.
Oh,
I've traded my shackles for the glory of song. I'm free, praise the Lord, free at last.
I'm free.
I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the gift of my past.
Oh,
I've traded my shackles for the glory. I'm free, praise the Lord, free at last.
I'm free encore.
I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the gifts of my past.
Oh,
I've traded my shackles for the glory of song. I'm free.
Praise the Lord, free at last. Amen, amen. Nous croyons que nous sommes libres, Seigneur. Ce n'est pas par notre force. C'est parce que nous t'avons dit clairement que c'est toi que nous choisissons.
Amen.
Et nous croyons que tu vas accomplir ta parole.
Amen.
Nous réaliser de nouveau et faire que tu sois celui qui règne pleinement dans nos vies. Seigneur, alléluia. Prends tout, Seigneur. Et fait que nos vies s'épanouissent, portent du fruit en abondance, de fleuves d'eau vive. Que les raisonnements humains n'atteignent pas ce que l'Esprit a produit. Pour étouffer comme les épines, comme c'est dit dans la parabole de Matthieu 13. Oh Seigneur. Que les raisonnements humains ne perturbent pas ce que Dieu a créé en nous. La vie de Jésus. Alléluia. All to Jesus, entre tes mains. Alléluia.